Bonjour Sonra, j'aimerais vous inviter ce matin à aller dans Marc chapitre 15 verset 42 à 16 verset 8 et j'aimerais juste préciser qu'il y a trois raisons pour lesquelles je suis très content de partager ce passage avec vous ce matin. Tout d'abord, la première raison, c'est que nous arrivons à la fin de notre parcours de l'évangile de Marc. Donc, dernier message ce matin. On a commencé le 26 mars 2023, où j'avais proposé une introduction sur ce livre de Marc. Et voilà qu'aujourd'hui, le 3 novembre, nous arrivons au bout de ce parcours. Alors, il y a eu environ 7 orateurs différents qui ont parlé sur ce thème. Et puis, les messages sont disponibles sur le site. Mais ce qui est extraordinaire dans cet évangile, c'est qu'on a passé quasiment un an et demi dessus, alors que c'est l'évangile le plus court des quatre évangiles. Et c'est certainement le livre sur lequel on a passé le plus de temps ici depuis 15 ans où je suis à Sonra. Et j'espère que ce livre a été pour vous un encouragement et vous a défié, encouragé, motivé à plusieurs reprises à travers ce que nous avons étudié. Je vous rappelle que le thème de cet évangile, on le trouve au verset 45, chapitre 10, à savoir que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc présente Jésus comme le serviteur qui est venu donner sa vie pour beaucoup. Et c'est logiquement qu'on va voir ce matin que la conclusion de l'évangile de Marc repose sur ce serviteur qui offre sa vie en rançon et qui meurt pour les pécheurs. Alors dans Marc 15, 16, c'est vraiment la touche finale et c'est l'encouragement de voir que Jésus a donné sa vie en rançon, mais non seulement il l'a donné en rançon, mais en plus il est ressuscité. La deuxième raison pour laquelle je suis content de partager avec vous ce passage, c'est parce que si vous avez lu le 24 heures cette semaine, qui est un journal que je vous conseille, mais qui est l'équivalent du Progrès, mais de l'autre côté du lac Léman. J'étais chez mon grand-père cette semaine, près de Lausanne, et voilà ce que j'ai découvert en deuxième page du journal. Quel était le sujet de cet article de réflexion? Ça commence par un H et ça finit par un N. Je vous laisse deviner, 31 octobre, Halloween. Alors, de là, je suis parti dans cet article parce que l'auteur était à la fois un physicien et un théologien. Alors déjà, de double casquette, intéressant. Et voilà ce qu'il dit au sujet de Halloween, donc en pleine page de ce journal que l'on peut trouver de partout. Et voilà ce qu'il dit. « Pourquoi alors mettre ainsi la mort à l'honneur? C'est certainement dans la logique de jouer à se faire peur, c'est aussi dans la logique de conjurer la peur de la mort en faisant un objet de ridicule. » Et il poursuit son analyse sur cette fête d'Halloween en disant « Comme chrétien, je crois que la mort est réellement vaincue. » Et donc Jésus, à Pâques, est sorti de la tombe. Affrontant la mort sur son terrain, il en a brisé les liens. Et il offre une vie nouvelle et éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et il conclut avec cette question. Alors, est-ce qu'on fête Halloween ou est-ce qu'on fête Pâques? Alors évidemment, dans cette salle, je pense que la réponse sera unanime. Mais la réalité que j'ai trouvé ça intéressant de voir que dans un journal que tout le monde peut trouver, qui n'est absolument pas un journal chrétien, il y a un article dans lequel un théologien prenne position pour dire « Hey, ok, on peut parler d'Halloween, cette fête des morts, mais il y a beaucoup plus à se réjouir que cela, c'est celle de la mort et de la résurrection de Jésus. » Alors est-ce que ça vaut le coup de fêter, de parler de Pâques en novembre? Eh bien, vous voyez, il n'y a pas de raison pour ne pas parler de Pâques, on pourra en parler tous les week-ends, puisque c'est le moteur de notre foi. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que la peur est aussi le dernier mot qui apparaît dans cet évangile de Marc. En effet, si je prends le chapitre 16, verset 8, il est dit que les femmes qui étaient venues pour apporter les derniers rites funéraires à Jésus, au corps de Jésus, sortirent du tombeau qui était vide et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Dans d'autres traductions, on peut voir qu'elles étaient pleines d'effroi, ou encore tout simplement qu'elles avaient peur. Et cette frayeur, elle est compréhensible. Ces femmes sont venues accomplir un rite funéraire, mais à la place de faire cela, elles se retrouvent devant un tombeau vide, et à l'intérieur du tombeau vide, elles rencontrent un ange. Et comme vous le savez bien, rencontrer un ange n'arrive pas souvent, et c'est plutôt surprenant. Alors, de là, on peut se poser la question, mais pourquoi une fin si abrupte à l'évangile de Marc ? Et là, vous allez me dire, non mais attends Colin, tu dérailles, moi dans ma Bible, je vois que la fin de l'évangile de Marc n'est pas au verset 8 du chapitre 16, mais c'est au verset 20. Et il se trouve que j'étais parti pour continuer jusqu'au verset 20. Et puis en lisant quelques commentaires, j'ai découvert que la petite note qui était dans ma Bible, à laquelle j'avais rien compris, avait en fait un sens. Je ne sais pas vous, mais moi dans la version second 21, il y a une petite note qui dit, à partir du verset 9, le texte de A, C et M, mais absent de S et B. Merci, merci. Ce passage ne se trouve pas, en fait, dans la grande majorité des manuscrits du Nouveau Testament et dans ceux reconnus comme étant de la plus grande fiabilité. Je le répète, autrement, c'est qu'en fait, dans la plupart des manuscrits, l'évangile de Marc s'arrête au verset 8. Il n'y a pas les versets 9 à 20. Et j'ai lu des articles assez clairs là-dessus où le commentateur dit carrément que ces versets 9 à 20, bon, très bien, c'est intéressant sur le plan historique, mais ça ne fait pas partie du canon, ça ne fait pas partie du livre sacré. On ne peut pas considérer ce texte à la même hauteur que le reste de l'évangile de Marc. D'ailleurs, il y a un verset au verset 18, il est question de, que des signes accompagnent ceux qui ont cru, et notamment ils pourront manipuler des serpents. Il y a des églises aux États-Unis où ils pratiquent la manipulation des serpents. Et parfois, ils meurent. Très clairement, vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce verset pour dire « Ah, Jésus a dit ça, donc je peux faire ce genre de pratique. » C'est en dehors du canon. Alors, je réponds tout de suite à une question et une objection. On va me dire « Mais attends, Colin, depuis que tu es petit, jamais personne ne t'a dit ça et tu t'apprêtais à parler aussi sur ces versets 9 à 20. Est-ce que finalement, la Bible est fiable ? Est-ce que ce n'est pas un livre qui a été construit par empilement de textes et donc qui a évolué dans le temps, avec des ajouts, avec des retraits, etc. etc. ? En fait, une manière de répondre à cette objection est de dire que ce texte représente une exception assez unique dans toutes les Écritures, à savoir que le texte tel que l'on le connaît aujourd'hui dans la Bible, est quelque chose qui a été rigoureusement compilé. C'est un texte qui est basé sur des textes extrêmement anciens et qui se recoupent à de multiples reprises et dans lesquels on peut avoir une parfaite confiance. Il n'y a, dans tous les stades de la chaîne de reproduction des manuscrits anciens, il n'y en a pas un comme la Bible qui est autant sourcé et autant confirmé dans sa fiabilité. J'ai terminé cette introduction par laquelle je voulais justifier le fait que ça vaut la peine ce matin de se pencher sur Marc 15 à Marc 16, parce qu'on arrive à la fin de l'évangile de Marc, et on va voir que dans ce texte, il y a des choses extraordinaires. Mais je vous propose d'abord de lire la parole de Dieu. Donc Marc 15, verset 42. À 47. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre émanant du conseil, qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de José, regardaient où l'on déposait Jésus. Dans ce premier passage, on voit qu'il y a des réactions inattendues. Et puis on verra dans le deuxième passage du chapitre 16 qu'il y a une résurrection inattendue. En effet, dans ce passage, il y a des réactions inattendues parce qu'il y a trois catégories de personnes qui sont réunies autour de la mort de Jésus. Trois catégories de personnes qui normalement ne se côtoient pas. Vous avez un officier païen, romain, vous avez un juif pharisien, et puis vous avez des femmes. Des femmes qui sont nombreuses ici et qui observent la scène de Joseph qui est en train de descendre le corps de Jésus à la croix. Alors, ces femmes, on va en reparler parce qu'elles font partie d'une réflexion intéressante. Le fait qu'elles soient ici proposées comme témoins de la résurrection apporte un argument historique pour dire que la résurrection a bien eu lieu, mais aussi que la mort de Jésus a bien eu lieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous proposer cette réflexion, à savoir que qu'est-ce qui motive votre vie ? Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est le moteur et la réelle motivation de chacun de vivre sur cette terre ? Et en fait, on peut être motivé par deux idées totalement opposées qui peuvent être que l'on a compris ou que l'on n'a pas compris, à savoir, nous sommes motivés par l'idée que tout tourne autour de nous. Et les exemples sont multiples, mais que l'on soit depuis l'enfance, depuis notre enfance, jusqu'à notre âge adulte, nous sommes préoccupés de savoir ce que les gens pensent de nous, comment va notre travail, et si nous allons pouvoir avoir une promotion, ou encore si personne n'oublie notre anniversaire, etc., etc. Dans ce film que vous avez peut-être vu cet été, Le Comte de Monte Cristo, qui est un film inspiré d'un roman d'Alexandre Dumas, il nous a raconté l'histoire d'un jeune Edmond Dantès qui est accusé de trahison envers Louis XVIII et qui se retrouve du jour au lendemain emprisonné. Il perd tout, sa carrière, sa famille, sa fiancée. Et puis, il n'est plus le maître de son existence, il n'est plus le maître de rien du tout, puisqu'il se retrouve dans un cachot sombre et humide sur l'île du Château d'If. On a ici l'exemple d'un homme qui se retrouve, alors qu'il était promis à une carrière plutôt extraordinaire, qui se retrouve exclu du cours de la vie, qui se retrouve même mis de côté. Et en prison, il prépare sa revanche. Il prépare sa vengeance. Et lorsqu'il sort de prison, sa préoccupation première, et qui va l'occuper pendant encore de nombreuses années, c'est de pouvoir anéantir ceux qui l'ont anéanti. Il trouve le moyen de faire sortir ses ennemis du centre de la vie de laquelle lui-même avait été exclu. Dans cette histoire, on voit qu'il y a cette double préoccupation de l'homme qui est soit d'être le centre de l'univers, d'être le centre de ce qui se passe autour de lui, ou à l'inverse, de pouvoir, par tous les moyens, se mettre au service de davantage de justice, de davantage d'égalité. Alors dans le cas d'Edmond Dantès, cette justice était en réalité pour lui le moyen de revenir au centre du débat et au cœur de la vie active. Mais la réalité, c'est que cette justice, on a de nombreux exemples de personnes qui ont cherché à la servir pour adoucir notre monde et pour permettre aux gens de mieux vivre. Je pense aux députés qui ont fait partie de l'Assemblée nationale constituante en 1789, lorsqu'ils rédigent la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Le premier article affirme « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » La recherche de la justice est quelque chose qui est profondément ancré dans le cœur de l'homme. Cependant, comment arriver à un monde plus juste? Alors, il y a deux réponses possibles. La première, c'est de changer le cœur humain. Dans ce monde où nous sommes tordus et où nous sommes enclins à nous occuper avant tout de nos propres intérêts, notre cœur a besoin d'être transformé. Et en même temps, ce n'est pas suffisant, il y a parfois aussi certainement besoin de changer le système. Mais ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est ce thème-là du changement du cœur humain. Comment le cœur peut-il changer? Eh bien, j'aimerais vous proposer de réfléchir à cela avec l'exemple de Joseph d'Arimathée. Verset 43, je vous relis ce verset. « Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. » On sait pas mal de choses sur ce Joseph. On le retrouve dans les autres évangiles. Et on sait que, en fait, c'était un homme influent. Ici, on nous dit un membre éminent du conseil. Du conseil, c'est-à-dire le conseil des chefs religieux juifs qui étaient la référence pour exercer notamment la justice pour les juifs en Palestine à cette période-là. En fait, Joseph d'Arimathée, c'est un pharisien. C'est un spécialiste de la loi, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui connaît très bien les Écritures. On sait aussi, d'après Matthieu 27, que c'est un homme riche. On le voit ici, c'est lui qui prend en charge les funérailles de Jésus et les dépenses qui vont avec. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aussi de lui que c'était un disciple de Jésus, mais en secret, par la crainte des chefs juifs. Et on connaît un autre disciple de Jésus qu'il était en secret, et qui était aussi un pharisien, et qui connaissait aussi Joseph, et qui a aidé Joseph à descendre le corps de Jésus à la croix. C'est Nicodème. Nicodème, on retrouve son histoire dans Jean chapitre 3. C'est lui qui vient vers Jésus, et à qui Jésus dit « Il faut que tu naisses de nouveau pour pouvoir hériter de la vie éternelle. » Bref, Joseph, c'est à la fois quelqu'un d'érudit, à la fois quelqu'un de riche, à la fois quelqu'un d'influent, c'est l'exemple type de la bonne moralité religieuse. Et on nous dit même que c'était un homme bon et juste. Il est, si on pouvait revenir à ce que je vous ai expliqué juste avant, en termes de position sociale en Palestine à l'époque, il est au centre, il est celui qui est le mieux positionné par rapport à la religion juive par rapport au statut social dans cette population juive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte ici nous dit qu'il osa se rendre vers Pilate. Il osa. Qu'est-ce qu'il faut pour oser quelque chose? Il faut de l'audace. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'audace? Il y a l'idée qu'on prend un risque. Quel est le risque que Joseph d'Arimathée a pris ici? Son statut, son influence, sa position sociale sont ici mises de côté. Parce que publiquement, il monte sur cette colline où il y a la croix, il prend une échelle, il monte à cette échelle et il descend le corps de Jésus. Publiquement, il se salit les mains avec ce corps qui est en mauvais état, Jésus a été torturé, on est d'accord, et il montre ici son humilité. Il prend soin du corps de Jésus avec dévotion, malgré le fait que cette tâche soit dégradante et humiliante. Alors que certainement, toute sa vie précédente, il s'est employé à préserver son statut social, à devenir l'un des plus influents en Israël. Voilà que devant la croix, il remet en question tout cela. Et avec Nicodème, il est confronté au fait que désormais, il ne peut plus dire qu'il est un disciple de Jésus en secret, mais il devient un disciple de Jésus public. Autrement dit, il accepte de ne plus être le centre du monde et de voir son monde se briser pour sortir de ce centre du monde. On pourrait dire la même chose d'ailleurs de l'officier romain qui, lorsqu'il voit que Jésus meurt, constate au verset 39 du chapitre 15 que Jésus était le Fils de Dieu. Et il affirme cela haut et fort, alors que lui-même, officier romain, est en territoire occupé, qu'il a du mépris pour les Juifs, et qu'en plus, il est confronté à des gens à côté de Jésus qui se sont révoltés contre les Romains. Donc pour lui, ce serait justice que Jésus soit. Et pourtant, il affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Ce serait comme si aujourd'hui, en Ukraine, des prisonniers russes, un prisonnier russe soit considéré par les Ukrainiens comme quelqu'un d'exceptionnel et à qui on doit rendre hommage. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, cet officier romain le fait. D'un côté, on a le païen, l'officier romain, qui reconnaît que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. De l'autre, on a un pharisien, des pharisiens, qui reconnaissent que Jésus est aussi quelqu'un d'extraordinaire. Et les deux sont prêts à remettre en cause leur propre sens de la vie, leur propre moralité, pour reconnaître, pour donner une place particulière à Jésus. On a deux personnes ici différentes. Le païen qui pourrait dire « Mais Jésus, j'en ai rien à faire, c'est un juif et je ne suis pas concerné par lui. » Et le pharisien qui, lui, considère qu'il obéit à Dieu, qu'il est de bonne morale et qu'il n'a pas besoin de Jésus. Et pourtant, ces deux exemples nous montrent que ce soit un pharisien, que ce soit un païen, que ce soit des moins que rien, ou que ce soit des femmes dont certaines avaient une vie passée trouble, tous ont besoin d'être nés de nouveau. Tous ont besoin de la grâce de Dieu. Et tous ont besoin de réaliser que celui qui est au centre de notre vie, de la vie sur terre, ce n'est pas soi-même, mais c'est Jésus lui-même. Et d'ailleurs, Jésus donne un exemple incroyable dans Jean 17, lorsqu'il explique comment fonctionne la Trinité. Jésus est là pour honorer le Père, et l'Esprit est là pour honorer le Père et le Fils, et tous se glorifient l'un l'autre. Et on pourrait dire à partir de là que Dieu déteste la manière dont notre monde fonctionne, où tout tourne autour de nous-mêmes, alors que la Trinité elle-même est orientée entre les trois personnes de la Trinité, comme une danse où chacun honore les deux autres. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce passage, on voit que Christ a accepté de quitter cette place favorable de la Trinité, de quitter ce cercle central où il était honoré. Et il l'a fait en acceptant de mourir. Et il l'a fait non pour être servi, mais pour servir. Et il l'a fait pour nous montrer comment nous-mêmes, nous pouvons avoir une vie transformée et devenir et avoir une vie qui prenne du sens et qui nous mène vers une vie de justice et de réussite. Alors il y a trois applications que l'on peut retenir de ce passage. La première qui est très forte, c'est l'idée de dire que l'Évangile ne nous rend pas simplement heureux. L'Évangile fait de nous quelqu'un d'heureux de partager la bonne nouvelle. Comme Joseph ici a accepté de quitter sa position sociale envieuse et de publiquement dire que Jésus-Christ méritait sa dévotion. La deuxième application, c'est de dire que l'Église est remplie de personnes qui naturellement ne donneraient pas du temps les uns aux autres s'ils n'avaient pas été transformés par l'Évangile. On n'aurait rien à faire les uns avec les autres pour de multiples raisons. Ce qui relie les chrétiens, ce n'est pas naturel, mais c'est l'amour pour Jésus-Christ qui nous pousse à nous aimer les uns les autres et à former une communauté sans équivalent. Et la troisième conséquence, c'est que la plupart d'entre nous, nous vivons peut-être une vie tout à fait normale, honnête, peut-être même qu'on vient ici régulièrement, mais est-ce que nous sommes transformés par l'Évangile comme Joseph ? Est-ce que, devant la croix, en voyant Jésus-Christ sur cette croix, est-ce que nous, comme Joseph, nous aurions été prêts à mettre en pause notre propre amour et notre propre image pour être prêts à prendre une échelle et à descendre le corps de Jésus de la croix, à abandonner le statut pour lui donner l'honneur qu'il mérite. Et pour cela, nous avons besoin d'être touchés par la grâce de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais voir avec cette deuxième partie, chapitre 16, 1 à 8, une résurrection inattendue. Et je vous propose de lire ces 8 versets. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche. Et elles furent épouvantées. Il leur dit, « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à mes disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées. Et elles ne dirent rien à personne, car elles étaient effrayées. Dans l'histoire du comte de Monte Cristo, alors que Edmond Dantès sort de prison et qu'il prépare sa vengeance pour punir ses ennemis, on est frappé de voir, en tout cas moi j'ai été frappé, alors peut-être pas vous, mais de voir que j'étais presque content de le voir se venger et de me dire finalement, bah, c'est justice, il a quand même bavé et ils ont été très méchants avec lui. Et il mérite de se venger. Et d'ailleurs, il sort de prison et il a cette phrase très forte, il dit « À partir de maintenant, c'est moi qui récompense et c'est moi qui punis. » Et puis, tout d'un coup, alors que le film se déroule et près de la fin, j'étais comme rattrapé par la réalité, avec une sorte de claque qui m'a dit « Non mais attends, tu ne vas pas avoir d'empathie pour cet homme qui se venge. » À travers Andrea, qui est son protégé, qui est un jeune homme qui le protège, et qui tout d'un coup lui dit, entre la vengeance et la vie, j'ai choisi la vie. Et ça m'a fait comme une claque de réaliser que ce Edmond Dantès, qui était en train de se venger et de faire souffrir terriblement ceux qui lui avaient fait du mal, était en réalité, certes revenu au centre du jeu, certes redevenu le maître de sa vie, mais en réalité il était esclave de sa vengeance. Et il était désormais prisonnier d'un autre problème, c'était celui de vouloir éliminer ses ennemis. Et cette phrase de son protégé qui lui dit « Maintenant, entre la vengeance et la vie, j'ai choisi la vie », m'a ramené à la réalité de dire « Ah ouais, en fait, c'est pas parce qu'on me fait du mal que je dois faire du mal à mon tour. » Ici, dans ce passage, on est frappé de voir que Jésus... Je vais m'arrêter simplement sur ces versets-là. Jésus a un nom à la bouche. Regardez ce qu'il dit. À Pierre. Je relis la phrase. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Si j'enlève à Pierre, ça marche très bien. Mais allez dire à ses disciples qu'il vous précède en Galilée. Ok, on comprend très bien. Et là, c'est ajouté à Pierre. Et ça fait sourire en sachant que Marc tient sa source et est inspiré par le récit de Pierre. Peut-être que Pierre lui a suggéré de bien mettre son nom ici, dans cette phrase. Mais ce qui est incroyable, c'est que le nom de Pierre est bien précisé. Et si on vient quelques pages en arrière, on sait que Pierre, c'est le disciple qui a renié Jésus. C'est celui qui n'a pas seulement fui et laissé Jésus tout seul, c'est celui qui, même devant Jésus, dans la cour où Jésus était arrêté, a répété à 3 reprises qu'il ne connaissait pas Jésus, qu'il n'avait jamais rien eu à faire avec lui. Bref, Pierre est un traître. Et que dit Jésus ? Ouais, dis à Pierre de venir en Galilée, mais dis-lui bien de venir à genoux. Je veux que quand il arrive, je veux voir le sang sur ses genoux. Je veux le voir ramper par terre. Et puis il a intérêt de venir aussi avec un bon repas et puis un chariot plein d'or. Parce que quand même, il a intérêt à se racheter de ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Il dit simplement à ses disciples et à Pierre, rendez-vous en Galilée. C'est extraordinaire parce que ici même, Jésus exprime la grâce dont il est capable. Il n'est pas en train de reprocher aux disciples ce qu'ils ont fait, ni à Pierre ce qu'il a fait, mais il leur promet qu'il les verra. Il leur montre ici qu'il les aime et qu'il leur pardonne avant même qu'il ne les ait revus, qu'ils ne se repentent, et il leur donne la force même de se repentir, de lui demander pardon. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous montre comment Dieu fonctionne. Le salut est pour les forts, ceux qui savent bien parler, ceux qui savent bien prier, ceux qui connaissent leur Bible. Eh bien non, c'est tout faux. Le salut est pour ceux qui admettent qu'ils font des erreurs et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Le salut est pour ceux qui sont prêts à se repentir devant Jésus-Christ en reconnaissant que ça leur arrive d'avoir honte de lui. Et ça leur arrive pas souvent d'être comme Joseph d'Arimathée qui était prêt à se mettre en valeur devant tout le monde à la croix. Oui, nous détestons admettre que nous nous trompons, parce qu'on a toujours l'impression que justement, nous sommes faibles, nous nous affaiblissons, et nous sommes plutôt promptes à nous justifier pour nos défauts, notre caractère, évoquer les circonstances. Je connaissais un prédicateur qui était extraordinaire, et qui avait un très gros caractère, quelqu'un avec qui il fallait mieux être du même avis. Et lorsqu'on lui faisait des reproches, il disait « Non, mais laissez-moi être moi-même. » Il a mal fini. Mais si tu laisses l'Évangile pénétrer tes faiblesses, alors tu réalises à la fois la fragilité et la force de l'amour de Christ, qui est humble, qui est puissant à la fois, et tu découvres que la résurrection porte un message extraordinaire. C'est quoi le message de la résurrection ? Tes péchés sont pardonnés. Parce que Jésus donne cette promesse, je vous retrouverai en Galilée. Et plus que cela, Jésus nous donne cette promesse extraordinaire, à savoir qu'après cette vie, il y a une résurrection. Je vous retrouverai au ciel. Et c'est extraordinaire quand je pense à ma grand-mère, qui est décédée il y a 20 ans, qui était hémiplégique, donc elle avait le bras droit paralysé, la jambe droite paralysée, et d'autres conséquences. C'était un accident lors d'une opération, lors d'une anesthésie qui lui a provoqué ça. Et elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne à la suite du témoignage de mon oncle et de ma mère. Et un des versets qu'on aimait lire ensemble avec ma grand-mère, c'était cette promesse qui était de savoir que le jour viendra où Jésus séchera toute larme de nos yeux, et nous pourrons marcher et puis danser avec lui librement. Une autre grand-mère qui avait des problèmes de vue et qui était attristée de ne plus pouvoir lire la Bible elle-même, son chant préféré c'était « Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus ». Voilà ce que la résurrection nous dit. Jésus est là non seulement pour sauver notre âme, mais aussi notre corps. Et il nous promet que au ciel, nous aurons une vie extraordinaire avec lui. Ça nous pousse à nous pencher sur cette résurrection et à savoir est-ce que nous croyons que c'est vraiment arrivé ou est-ce que c'est juste un symbole. Si ce n'est qu'un symbole, la conséquence de la résurrection est faible pour notre vie. Alors que tout nous pousse à réaliser que cette résurrection est arrivée et qu'elle est là pour nous montrer que notre vie peut être transformée. Marc 16, verset 8, je vous l'ai dit au début, est une fin un peu abrupte de cet évangile de Marc, mais ce n'est pas une fin incomplète. C'est une fin ouverte. En fait, Marc, en terminant simplement par ces femmes qui sont effrayées parce qu'elles ont vécu quelque chose d'incroyable, souligne mieux ce que l'ange leur dit lorsqu'il les accueille dans le tombeau. N'ayez pas peur. C'est une fin ouverte par laquelle Marc nous invite à terminer l'histoire en obéissant au commandement de l'ange. Retrouvez-moi en Galilée. Bien que les douze aient tous fui, bien que Pierre ait renié Jésus, bien que la peur ait réduit au silence ces femmes, Marc invite néanmoins ses lecteurs à prendre la parole et à être fiers d'appartenir à celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité à la croix. Oui, Marc termine son évangile avec un tombeau ouvert. Et quelle belle conclusion pour terminer cet évangile. Amen.
Merci Colin pour ce message.